Radio-Télévision Suisse. RTBF.
Radio France.
Radio-Canada.
Bonjour à tous, bienvenue dans la librairie francophone. Aujourd'hui, une rencontre inédite et étonnante autour de la poésie, le lauréat du prix Renaudot et un roman flamboyant qui rend hommage aux libraires. C'est le prix Renaudot 2017. Olivier Guèze a séduit le jury avec un roman sur un monstre absolu. La disparition de Joseph Mengele raconte la fuite du symbole de la cruauté nazie. Bonjour Olivier Guèze.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Pas mal.
Pas mal. Comment s'est passée cette matinée d'attente à savoir qui allait avoir le Renaudot quand on est dans la dernière liste ?
Non, j'ai une grande chance, j'ai dormi comme un bébé, ce qui ne m'était pas arrivé depuis très longtemps. Je me suis réveillé à 9h, je me suis dit génial, il est déjà 9h, je n'ai plus que 3 heures à attendre.
Oui.
J'ai glandé pendant 2 heures et je suis parti à pied chez mon éditeur, chez Grasset. Ouais. Il me fallait 1 heure de marche, donc ça m'a occupé. Et voilà, donc ça s'est passé assez rapidement, plutôt bien.
Bon, félicitations en tout cas.
Merci beaucoup.
Olivier Guèze est avec nous cette semaine. Nous irons aussi en Algérie avec la jeune auteure Kauter Hadimi, qui fut aussi sélectionnée pour le Renaudot et pour le Goncourt. Nos richesses mettent en perspective l'indépendance de l'Algérie et le combat d'un libraire à partir des années 30 pour diffuser et éditer la grande littérature francophone. Et puis il sera question de poésie avec un artiste et poète calédonien. Paul Wameau va rencontrer un grand poète artiste. MC Solar revient après 10 ans d'absence. Son nouvel album est parfaitement produit, parfaitement écrit. Un écrin musical et littéraire.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Et comme toujours, 4 libraires sont en multiplex avec nous. Pour représenter la France, c'est Mathieu Colombe qui est de retour. Bonjour Mathieu.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire à Aix-en-Provence dans la librairie Goulard.
Exactement.
Tout va bien pour vous, vous êtes très loin de moi aujourd'hui.
Oui, c'est très inhabituel.
Dans ce studio. Marie-Noëlle Blé est libraire à Montréal, elle dans la librairie Raffin. Bonjour Marie-Noëlle.
Bonjour Emmanuel.
On est au Canada avec vous et je vous rappelle que la librairie francophone sera au Salon du Livre de Montréal pour une émission exceptionnelle le 16 novembre. À 16h, place Bonaventure, avec un plateau de prestige. Je vous dis tout à la fin de l'émission. En tout cas, réservez la date et l'heure, le 16 à 16h. Claire Renaud est libraire dans la librairie Atmosphère à Genève. On ira à Genève d'ailleurs dans quelques mois. Bonjour Claire.
Ah bah très bien, bienvenue.
Bah oui, normalement, le Salon du Livre de Genève.
Ah bah oui, mais c'est encore dans longtemps.
Bah c'est encore dans longtemps, effectivement. Bonjour Annick Dor.
Bonjour Emmanuel.
Nous vous représentez la Belgique à la Hulpe dans la librairie de la Mazrine et nous irons aussi à la Foire du Livre de Bruxelles, rassurez-vous. Merci d'être
magnifique.
Avec nous tous les quatre. Bonjour Paul Wameau.
Bonjour.
Vous êtes un poète et artiste calédonien, nous parlerons poésie tout à l'heure, mais on commence toujours cette émission par une histoire personnelle, une anecdote, une histoire de la Nouvelle-Calédonie peut-être.
Une histoire, oui, ça s'est passé pas en Nouvelle-Calédonie, mais en Guadeloupe. Donc ouais. J'étais en Guadeloupe il y a 2 semaines de ça, pour un concert et des ateliers d'écriture. Et dans mes ateliers, j'ai eu affaire à un participant qui me regardait d'une drôle de manière. Et donc, je lui ai expliqué d'où je venais. La Nouvelle-Calédonie, l'océan Pacifique. Et il m'a coupé. Il m'a dit, ah, mais vous êtes africain. Parce que pour ceux qui ne voient pas, je suis noir. Donc il dit vous êtes africain. Il dit non monsieur, je suis pas africain, je suis de Nouvelle-Calédonie, je suis kanak autochtone de Nouvelle-Calédonie. Non, vous êtes africain, je le sais, vous êtes africain, c'est pas possible, vous êtes noir. Et donc je lui ai expliqué en détail la Nouvelle-Calédonie d'où nous venons, que nous n'étions pas amenés par bateau mais que nous avons poussé sur place. Et donc, on ne raconte jamais mieux son histoire que par soi-même.
Bien, bonjour MC Solar.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous rencontrez Paul Wameau aujourd'hui. C'est un peu le principe de cette émission, les rencontres. Vous êtes déjà allé en Nouvelle-Calédonie, vous ?
Oui, je suis allé en Nouvelle-Calédonie. C'est un très très beau pays.
Merci.
Il y a eu quelques tensions. Je crois que ça va être dans l'actualité prochaine.
Avec l'autonomie de la Nouvelle-Calédonie qui est discutée en ce moment en France.
Avec des nouvelles discussions, mais c'était des moments superbes là-bas.
Bien, on va poursuivre cette conversation tout à l'heure. MC Solar et Paul Wameau sont dans la librairie francophone cette semaine. Et bonjour Kauter Hadimi.
Bonjour.
Vous êtes une jeune auteure algérienne, vous publiez l'un des romans les plus fascinants de cette rentrée littéraire. Nos richesses, paru au Seuil, raconte la vie et la mort d'une librairie d'Alger qui a eu une influence considérable sur le monde des lettres francophones. La librairie Les Vraies Richesses, fondée par Edmond Charlot, poussée par Jean Grenier, parrainée par Jean Giono et fréquentée par Albert Camus.
Que de grands noms.
Incroyable, elle a existé cette librairie,
et
c'est une histoire
toujours.
Vraie.
Oui, oui, c'est une histoire vraie, c'est 28 mètres carrés et ces 28 mètres carrés qui ont donné naissance à des écrivains exceptionnels du XXe siècle, qui a donné aussi naissance à un éditeur incroyable qui a traversé tout le XXe siècle en Algérie, en France, et qui a été vraiment un passeur de mots, un créateur, presque un créateur d'auteur, quoi.
Alors en 1936, un élève de Jean Grenier, qui fut aussi professeur de Camus, hein, Jean Grenier, rassemble 12 000 francs, deux associés, et il investit un petit local au 2 bis rue Charras, juste à côté de l'université, ceux qui connaissent Alger voient très bien. La librairie deviendra aussi maison d'édition et elle publiera notamment Noces d'Albert Camus, première édition, tirage 1225 exemplaires.
Qui met énormément de temps à écouler, et c'est devenu d'ailleurs une pièce rare, hein, cet exemplaire de Noces de Charlot. Cette petite librairie donc, était maison d'édition, mais aussi bibliothèque et galerie d'art. Hein. C'est tout petit, c'est minuscule.
Avec Bonnard.
Avec Bonnard,
l'étoile
notamment.
L'étoile de Bonnard.
Effectivement, ouais. Et il va accrocher d'autres toiles, d'autres photographies. C'est juste à côté de l'université. Et ce lieu est toujours ouvert. Donc, c'est la rue Charras.
L'ex-rue
Charras. Ouais. Elle existe toujours. C'est une bibliothèque de près. Et ce qui est assez marrant, c'est que j'étais à Alger il y a quelques semaines pour le Salon du Livre. Et j'y suis passée. Et la personne qui tient le lieu m'a dit que depuis la sortie du livre, puisque le livre est sorti également en Algérie, il y avait une foule de gens qui s'y pressaient alors qu'avant il n'y avait pas grand monde et que maintenant tout le monde passait pour voir la librairie de Charlot.
Bon, en tout cas, vous décrivez très bien l'ambiance de cette librairie dans ce quartier du centre d'Alger, proche du port, à 500 mètres de la place de l'émir Abdelkader. Pas très loin de là, il y a une autre librairie. On a une surprise pour vous, Kauter Adimi, la librairie du Tiers-Monde.
Ah,
vous connaissez ?
Bien sûr, une des meilleures librairies d'Alger.
Alors, nous y sommes
un excellent
allés,
libraire.
Nous y sommes allés à la rencontre du fameux libraire et de l'écrivaine Maïssa Bey.
Ah, oui,
et c'est le son du monde de la semaine.
Super.
Écoutez.
Super.
Alors cette librairie, pourquoi du tiers-monde ?
Ah ben c'est parce que c'est la première librairie qui a fait partie d'une entreprise, d'une société nationale, et c'était la première société à être nationalisée. Cette librairie faisait partie du réseau de Hachette, et quand elle a été nationalisée en 65, on lui a donné le nom de tiers-monde parce qu'à l'époque c'était une librairie spécialisée dans les livres qui parlaient que de livres de tiers-monde, et tiers-monde à l'époque avait un autre sens, c'était des pays en voie de développement, une librairie qui faisait un peu partie de la gauche d'époque.
Voilà, en tout cas, nous sommes vraiment au centre de la ville. Hein. C'est un endroit central, il y a une mezzanine. Nous sommes installés actuellement avec les livres de cuisine à côté de nous, qui marchent très bien à Alger, paraît-il.
Oui, pas seulement, bien sûr, mais elle existe encore, cette librairie et d'autres, grâce à l'acharnement justement de ces libraires qui doivent affronter pas mal de difficultés pour pouvoir offrir à leurs lecteurs ce qu'ils attendent, en particulier dans le domaine francophone.
Venez, on va descendre Maïssa Bey, on va se retrouver juste dehors. Venez, venez par là. Quand vous regardez la ville d'Alger, cette ville-là, qui est juste devant nous.
C'est une ville que j'adore.
Ce lieu central dans lequel nous sommes, voilà, à l'extérieur.
Regardez
de cette
lumière,
librairie.
Regardez la lumière d'abord, regardez cette lumière et ce ciel, et ce monde qui est dans les rues. Aujourd'hui, c'est un jour férié. Le samedi, les gens ne travaillent pas en Algérie, donc vous voyez, il y a énormément de monde, les gens se promènent, les gens profitent un peu de la chaleur et du soleil. Et c'est une ville vivante, avant tout et surtout vivante. Et je crois que c'est le mot qu'il faut retenir, lumineuse et vivante.
Ce sont vos premières sensations? Tenez, venez, allons un petit peu dans la rue.
Voilà. Oui, c'est des sensations, bien sûr, auditives. Vous entendez aujourd'hui, je ne sais pas si on peut les percevoir, mais les pas des gens dans les rues. C'est des sensations olfactives aussi, toutes ces odeurs qu'il y a autour de nous. Pas seulement des odeurs de cuisine, hein, il y a des odeurs de jasmin. Ce qui me semble essentiel, c'est cette langue qui est parlée dans les rues, cette langue, cette familiarité qui existe entre les êtres et qu'on ne retrouve que dans très peu de capitales.
Voilà, l'ambiance d'Alger, Kaouter Hadimi, et
je suis émue. Très émue, parce que c'est une librairie que j'adore, et que Meissavé, on a une histoire avec Meissavé, parce que ça a été un des premiers auteurs que j'ai rencontré, et qu'en 2006, j'ai participé à un concours de nouvelles, c'était le premier concours de nouvelles auquel je participais, le prix du jeune écrivain, et Meissavé faisait partie des jurés. C'est quelqu'un que je connais depuis 11 ans, et qui me suit, donc je suis très très émue, je trouve ça très joli, merci.
On a réalisé ce reportage il y a 2 ans à peu près.
Ce super,
livre a plusieurs entrées, Kaouter Hadimi, des récits en alternance, celui de Riyad de nos jours, qui est chargé de vider la librairie et de la repeindre pour en faire un magasin de vendeurs de beignets, le carnet d'Edmond Charlot, qui raconte toute l'épopée de cette librairie, et sa vie d'éditeur aussi, et puis toute l'histoire de l'indépendance. Tout s'entremêle, tout se croise, tout se recoupe.
Oui, oui, c'est des parties qui se font totalement écho et qui sont imbriquées les unes dans les autres. Donc, moi, je voulais questionner le lieu de bis de la rue Hamani. Et j'ai pris comme point de départ le centenaire de la colonisation, cette célébration fastueuse du centenaire. On a l'impression que c'est définitif, que c'est pour la vie, que l'Algérie, c'est la France et que ce sera toujours ainsi.
En 1930.
Et j'ai voulu arrêter la partie historique en 1961 avec ce qui s'est passé à Paris et les massacres de la Seine, parce que je pense que ça a été un moment de cassure incroyable, que ces Algériens qui sont à un moment donné pris à côté de la Seine et jetés dans l'eau au vu au sud énormément de passants. Et du coup, effectivement, ça fait un roman avec 3 parties, mais ce sont 3 parties qui se font écho en permanence dans le texte.
Et c'est vrai qu'on n'imagine pas à quel point cette librairie a permis pendant la guerre de continuer à faire exister les écrits des grands auteurs. Alors on y croise Giono, Bosco, Bernanos, Saint-Exupéry aussi, Camus. Tous ces auteurs sont publiés, et même ils sont publiés à l'international. Parce qu'Edmond Charlot a des amis qui sont aviateurs, et les aviateurs s'arrêtent à Alger,
prennent des livres
et vont les distribuer comme ça partout dans le monde.
C'est incroyable.
C'est incroyable.
Mais tout est incroyable dans l'histoire de Charlot, parce que même dès les années 30, lui, quand il ouvre sa librairie, il l'ouvre avec ce slogan un peu pompeux, par des jeunes, pour des jeunes, etc. Mais surtout, il l'ouvre avec l'idée que la littérature ne doit pas être une littérature nationale, avec une idée que le roman national, très français, etc., ça ne peut pas être que ça, et que ce que raconte l'écrivain en Égypte l'intéresse et peut lui parler tout autant que ce que raconte l'écrivain à Alger ou à Paris. Et du coup, il l'ouvre déjà avec une idée de Méditerranée et de littérature méditerranée. Mais c'est assez incroyable pour l'époque. On est dans les années 30.
Alors, deuxième surprise, on a retrouvé la voix d'Edmond Charlot. Et il parle évidemment de cette librairie Les Vraies Richesses, soutenue, je vous le rappelle, par Jean Grenier. Écoutez.
Jean Grenier, qui était un homme tout à fait remarquable, m'a dit, mais on n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour monter une librairie. Il suffit d'avoir 2 amis qui ont un peu de courage, et chacun d'entre vous mettra quelques centaines de francs. Vous créez une petite société, et vous verrez, ça marchera très bien. Et on avait appelé cette librairie Les Vraies Richesses. On avait demandé à Giono, qui nous a envoyé un télégramme en disant, faites. Alors, on a fonctionné comme ça. On était un peu comme des phénomènes.
Des phénomènes, c'est exactement ça.
Oui. J'aime beaucoup le conseil qu'il donne, c'est-à-dire il dit, vous n'avez pas besoin de grand-chose, vous prenez quelques copains, avec du courage, vous y allez. Et c'est ce que fait Edmond Charlot, c'est incroyable. À 20 ans, il se lance ainsi, avec
23
deux copains.
Ouais, voilà. 23 ans. 3 libraires ont lu votre roman, Kaouter Hadimi. Mathieu Colombe, vous ouvrez le bal, allez-y.
Allez. Eh bien, moi j'avoue qu'on ne peut que tomber sous le charme en fait de nos richesses. Parce que outre le fait de parler de cette figure emblématique des métiers du livre, qui est Edmond Charlot, vous parlez du métier de libraire avec une justesse et une pertinence que j'avais encore jamais vu jusqu'à présent. Donc pour moi, rien que pour ça, il ne faut pas sortir de sa librairie sans avoir ce livre dans son sac.
Claire Renaud est en Suisse. Ce roman vous a passionné, Claire.
J'ai adoré aussi. Je suis tout à fait d'accord avec mon collègue libraire. Vous parlez super bien de notre métier. J'ai d'ailleurs regardé plusieurs fois si vous étiez libraire avant.
Non.
J'ai adoré votre livre. Il rend hommage à la littérature avec un grand L. Et c'est Edmond Charlot qui vend en fait du rêve comme nous, n'est pas gestionnaire, n'aime pas les tracasseries administratives. Et il est tout fier de sa petite échoppe. Et j'avoue que moi, quand j'entre le matin dans ma librairie, j'éprouve cette même fierté. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé votre livre.
Annick Dor en Belgique, êtes-vous d'accord? Vous avez tranché.
Oui, tout à fait.
Voilà.
Ouais,
l'unanimité.
C'est vrai que pour moi aussi, c'est une très très belle découverte. Et puis j'ai trouvé, c'est vrai qu'on parle du métier de libraire, mais aussi les notes d'Edmond Charlot sont vraiment passionnantes. Il est hyper touchant. Et moi, j'avoue que j'ai refermé le livre en étant impressionnée positivement par les aspects lumineux et joyeux de cette trajectoire. Et puis en même temps, avec un certain accablement, une petite tristesse comme ça, parce qu'il y a évidemment beaucoup de choses aussi désolantes qui sont abordées dans le roman.
Avec plein de petites histoires dans la grande histoire aussi. Il y a des moments très touchants avec Saint-Exupéry, par exemple.
C'est les parties qui m'ont le plus ému, vraiment.
C'est-à-dire que Saint-Exupéry, on l'attend pour déjeuner avec Edmond Charlot, Giono, tous les autres, et il n'arrive pas. Alors on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait, quoi ? Et en fait, on regarde par la fenêtre, et il est en bas sur un banc, en plein soleil, avec des gamins, en train de leur construire, de leur fabriquer des petits papiers, des petits avions en papier avec l'aluminium des barres de chocolat qu'ils distribuent aux gamins.
Et c'est une vraie anecdote. Et en plus, c'est vraiment dans le cœur d'Alger. C'est Edmond Charlot qui racontait cette anecdote dans une interview. Et je trouve que c'est une des anecdotes vraiment les plus émouvantes sur Saint-Exupéry.
M.C. Solar, vous avez fréquenté les librairies, surtout les bibliothèques, lorsque vous étiez adolescent, paraît-il.
Oui. Il y avait des trésors, quoi. Il y avait, c'était gratuit. Et puis, il y avait tous les livres. Donc, je me suis souvent baladé.
Et vous êtes le produit de vos lectures aujourd'hui ?
Je crois. Ouais. Je crois que j'allais dans celle de Villeneuve-Saint-Georges et à celle de Beaubourg. Et quand je suis allé à Beaubourg, il suffisait qu'un étudiant oublie quelque chose. Et puis je vais le prendre en sortant de l'ascenseur. Et j'avais 2 heures à lire quelque chose que j'avais pas prévu.
Kaoté Radimi, votre roman est un vrai hommage à la résistance culturelle, aux livres et aux libraires. Mais vous osez faire dire à certains de vos personnages qu'ils n'aiment pas lire. Mais finalement, vous en tirez une leçon. Alors toute seule, vous faites votre propre démonstration. Vous vous étonnez vous-même, je suppose, parce que vous dites que ce n'est pas si grave. En tout cas, vos personnages disent ça, c'est pas si grave. L'essentiel étant de prendre la mesure de l'importance des livres.
Oui, j'ai pas fait un film hollywoodien. Hein. Tout le monde n'aime pas lire. La librairie n'est pas sauvée à la fin du livre. On n'est pas du tout là-dedans. Effectivement, la librairie se transforme en boutique de beignets et Abdallah, le dernier préposé auprès de cet endroit, effectivement n'aime pas lire. Mais il voue un culte absolu à cet endroit. Et pour lui, le livre, c'est quelque chose de tellement sacré qu'il n'arrive pas à avoir un rapport au livre qui est tout à fait normal.
Alors le hasard fait les choses un peu bizarrement aujourd'hui, Kaoté Radimi. Parce que nous avons appris jeudi la mort de Roger Grenier. Pas Jean Grenier, mais Roger Grenier. Jean Grenier est mort en 71. Roger Grenier était proche de Camus, grand spécialiste de son œuvre. On l'avait reçu d'ailleurs en novembre 2013 pour une librairie francophone spéciale Camus, avec Abdelmalik entre autres. Émission que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur notre site internet. Roger Grenier avait 98 ans et on pense à lui très fort aujourd'hui. Merci beaucoup, Kaoté Radimi. Merci d'être venu parce que vous êtes très malade. Vous avez un énorme rhume.
J'ai une voix nasillarde.
Un petit peu entendu, mais c'est une très belle voix. Merci d'avoir fait l'effort. Richesse est parue aux éditions du Seuil. Vous étiez sélectionné pour le Goncourt, première liste. Pour le Renaudot, deuxième liste. Vous n'avez rien eu, mais vous avez toutes nos félicitations quand même. On vous donne le prix librairie francophone, post-prix littéraire.
Formidable.
On vient d'inventer. Voilà. Vous restez avec nous, on va recevoir tout à l'heure le lauréat du prix Renaudot, Olivier Guèze. Vous n'y en voulez pas trop, j'espère.
Non, et Olivier est un ami, bon, j'ai beaucoup aimé son livre.
Très bien.
Tout va bien.
Bien, à suivre M.C. Solar et Paul Wameau. Et on écoute justement le tout nouveau titre d'M.C. Solar. Voici Géopoétique dans la librairie francophone.
Je commande un sondage pour des vacances à Singapour. On vote à main levée, il y a 5 filles contre et 5 gars pour. Routard, je leur soumets mes vacances seules en Estonie. Mais il manque une voix, était-ce Ariane ou Estonie? Une Asiate me branche, veux-tu Monténégro? J'ai descendu la tasse sec comme un schnapps du Monténégro. Petite taille, taille fine, était-elle taille ou de Taïwan? Son jean n'est pas diesel, c'est un gasoil de Taïwan.
Cancer du tropique, corne de l'Afrique.
S'il te plaît, please, ne reste pas immobile comme mort. Fais Paris, Dieppe, à Yep, ou vol comme Bob ou comme mort.
Depuis des lustres, je rafale sur le diable, mais pas de bol qui vit.
Une promo d'opodo cadeau me mène en Bolivie. Au Vatican, des Helvètes scrutent les pratiquants. Je jure que tu peux en voir le soir, cité du Vatican. Donc, j'ai fait mon service dans la Confédération Suisse. Si j'aime ça, affirmatif, y'a que la Confédération Suisse.
Cancer du tropique, corne de l'Afrique, traité atlantique, euro-asiatique, paysage angélique, art automatique, monde hypnotique, géopoétique.
Du monde j'ai fait le tour, tout comme Davis Miles, j'y ai appris des choses.
en grillant tous mes miles. J'ai connu la Pologne, la gare de Bologne. Je sais que pour la chasse en Sologne, faut pas mettre d'autres colonnes. J'ai vu la cordillère des Andes, le Honduras, en lisant Neruda, Hemingway, Simon Honduras. J'y buvais des légendes, on dit qu'en Colombie, les hiboux deviennent chouettes dès lors qu'ils croisent une colombe. Bi. Pour rouler sans trafic, chameau en Centrafrique, j'ai même croisé Jamaïque, le Rastaman en Jamaïque. Je lui parlais des plaines, du golfe du Yémen. Il lâchait des volutes accompagnées par des yémen.
Cancer du tropique, corne de l'Afrique, traité atlantique, euro-asiatique, paysage angélique, art automatique, monde hypnotique, géopoétique.
MC Solar avec Géopoétique, extrait de son tout nouvel album sur votre radio francophone.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS La Première.
RTBF La Première.
Ici Radio-Canada Première.
France Inter.
On parle poésie avec Paul Wameau et MC Solar aujourd'hui dans la librairie francophone. Paul Wameau, vous êtes né en Nouvelle-Calédonie sur l'île de Lifou. Vous avez grandi dans le quartier populaire de Rivière-Salée en lisière de Nouméa, car vos parents ont dû quitter l'île natale pour Nouméa à un moment donné.
Oui, les parents ont dû quitter l'île natale pour... Ma grande sœur avait un problème de santé. Et du coup, on a dû quitter l'île pour la ville.
Alors du coup, vous ressentez la condition du déraciné. C'est cela qui vous pousse à écrire, à côtoyer les rappeurs de Nouméa aussi?
Oui, oui, ce sentiment-là d'être pas à ma place, d'avoir quelque chose qui manque. Donc c'est ça qui m'a poussé à écrire.
Vous publiez votre premier recueil de poèmes en 2006 et en 2007, vous décidez de quitter votre travail d'enseignant pour vous consacrer à votre art. Et vous devenez une personnalité incontournable de la vie artistique en Nouvelle-Calédonie. C'était un vrai risque ça, non?
C'était un risque, c'était un choix.
Ouais.
Parce que c'était nouveau, le fait de dire des textes, de prendre la parole, c'était nouveau. C'était assez nouveau et en plus un kanak. Donc voilà, c'était...
Bon, on va,
ça fait le tour.
On va écouter ce que vous produisez.
D'accord.
Parce que vous êtes venu en studio avec un instrument assez étrange. Vous pouvez me le décrire là, celui qui est sur la table?
On appelle ça des sonai, c'est des nakalaks. Ça vient de l'archipel du Vanuatu.
D'accord.
Donc c'est pour ça que ça se met au pied.
Ce sont quoi, des noix, c'est ça?
Voilà, des noix qu'on dénoyote pour faire du bruit.
Très bien.
Voilà.
Alors vous allez nous interpréter là, dans les conditions du direct, un titre que vous venez de créer qui s'appelle Révélation.
Et voici je viens à toi avec ma foi folle en guise de langue feu. Avec tout le beau, tout le fort, tout le fou, le vrai qui m'incendie. Depuis que mon cri s'est rallumé dans l'étreinte du grand oui, oui, oui. Depuis, oui, je crois comme un chien fou qui aboie plus loin que la grande nuit. Oui, oui, je crois aussi vrai que je te le dis, avec toutes les tripes de mon être tout entier, que toutes les victoires sont en nous, que les volcans que l'on dit morts peuvent ressusciter. Oui, 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 définitivement, oui. La victoire est en nous. 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 Et j'entends les battements des tambours. Et j'entends la nuit qui m'épelle. J'entends rythme battre et rebattre. Et j'entends la cadence du bambou. Cascade et murmure du banyan. Dans le feuillage, je me récite par cœur l'alphabet de ton nom. J'entends le cri mémoriel. J'entends rythme battre et rebattre. Que la victoire est en nous. Que la victoire est en nous. Voilà.
Paul Wameau.
On est là.
Sous les yeux d'MC Solar.
On est ensemble. C'est les mots, pour moi, les mots, c'est vivant. C'est plus loin que moi.
Bon, il y a un libraire qui a écouté et lu vos textes, Paul Wameau.
D'accord.
C'est le français Mathieu Colombe. Mathieu.
Eh bien, alors déjà, c'était une découverte totale pour moi. Je ne connaissais pas du tout ce que vous faisiez, Paul, et j'ai été très impressionné. Mmh. En fait, je trouve que déjà le slam donne une liberté à votre écriture qu'elle sait parfaitement utiliser. Et dans les textes que j'ai lus, j'ai trouvé que toutes les lignes, enfin, cette écriture, elle est dans l'urgence. Toutes les lignes que j'ai pu lire, ça a été tendu comme des cordes de piano. Il y a certains mots qui frappent vraiment très 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 fort, mais ils frappent toujours juste.
Merci beaucoup.
Alors, il est venu avec des livres, Paul Wameau, plein de livres sur la table. Alors, c'est drôle parce que j'ai lu dans le journal France Antilles que vous avez demandé aux spectateurs de votre spectacle de venir avec un livre.
Oui, oui, c'était un atelier qu'on a appelé coutume littéraire. En Nouvelle-Calédonie, quand on arrive chez les gens, on arrive avec... En français, on appelle ça coutume, c'est un rituel. On arrive avec des choses qu'on amène et avec un discours, toujours avec un discours, une parole, pour dire qu'on arrive avec cette parole, ce discours et ces choses, et avec respect, humilité, ouais. Et avec cette parole-là qui est une parole qui vient de l'intérieur. Et le principe de cette coutume littéraire-là, c'est que chacun amène le livre qui l'a touché, qui l'a marqué, parce que les livres, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est pas rien.
Ouais, c'est pas rien. Vous racontez aussi que sur vos petites îles, Paul Wameau, nous avons des choses à dire au reste du monde. Oh. Et c'est vrai qu'avec la poésie, on peut facilement éveiller les consciences. Il y a un CD que vous avez publié, un titre sublime que j'ai écouté, que j'ai adoré, qui s'appelle « Je reviens ». Et qui dit beaucoup de choses aussi.
Je reviens voir l'eau de ma terre. Auprès de ma mère,
mon pays, ma terre, mon amour. Je reviens,
voir l'eau de ma terre.
Je reviens,
revenir,
je reviens,
auprès de ma mère.
Mathieu, 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 Johnny, à Canothag, la Nengodei, Gahetelam.
Ils sont tous très concentrés, même Paul Wameau est très concentré, il s'écoute très concentré. C'est drôle de vous voir comme ça, à l'écoute de votre voix, presque surpris, presque étonné. Avec MC Solar qui a le casque sur les oreilles aussi, et qui dans son génial titre Intronisation, qui a introduit votre nouvel album, MC Solar, vous dites, ça rejoint un peu Paul Wameau, ça constate que je te fouette avec la poésie.
Oui, oui, c'est-à-dire qu'avec de la poésie, on n'est pas obligé d'être frontal avec les mots. On arrive à faire passer quelquefois des idées, des sentiments. Là, j'ai vu, j'ai entendu tout à l'heure, j'ai noté même sa cadence. C'est-à-dire qu'il y a des mots et puis il y en a qui sont en haut de pic, qui jettent comme ça. Alors quelquefois, c'est la poésie qui peut être orale, comme il l'a fait dans le premier slam qu'on a entendu. Mais sinon, mettre... des mots les uns à côté des autres, ça peut être des balles, ça peut être
ça
peut être violent, ouais.
Ça fouette l'autre.
Et si le beat est lourd, je l'adoucis à la poésie.
Ça reflète à la lumière et sans elle, du vent.
Obsolète est aussi l'allumeuse qui
viking de l'empire du soleil, le vent.
Constate que je te fouette avec poésie.
J'ai en moi plus de Claude que de Solar.
Acte avec tact et capte l'admiration.
Fuck la terre, si je meurs, voici mon testament.
Si le rap excelle, le jazz en est l'étincelle.
MC Solar, un extrait de son tout dernier album. C'est un album réaliste, très bien produit, Claude. Cela faisait longtemps que je n'avais pas entendu un tel son. Il y a de l'humour, un hommage à Gainsbourg, des références au jazz, tout ça dans une poésie rythmée, un rap assez soutenu, plus incisif, plus marqué même qu'avant, je trouve. C'est 10 ans de réflexion, cet album, MC Solar ?
Oui, c'est le recul que j'ai eu. J'ai regardé un peu la vie des gens. Alors, d'habitude, moi, j'étais dans le, comment on appelle ça, un intermittent du spectacle. J'étais toujours en train de parler de musique ou des choses comme ça. Mais le fait d'être dans une autre vie, j'ai pu, je sais pas, voir quelquefois des difficultés, des gens qui m'entourent à droite et à gauche. Et il y a ce jus qui est venu à plein d'endroits. Alors pour pas me perdre, j'essaye quelquefois de le faire avec humour, mais disons que oui, ces 10 ans, c'est cette chose qui est arrivée le plus, c'est-à-dire que la vie n'est pas toujours simplement belle, quoi. C'est pas que des paillettes et des boules à facettes.
Oui.
Et
ça vous a appris ça, vous ?
Ah, ça me l'a.
C'est assez risqué d'ailleurs. Hein. Faut être soit très sûr de soi pour disparaître 10 ans quand on est artiste, soit être convaincu de sa forte notoriété, parce qu'on aurait très bien pu vous voir revenir comme ça, l'air de rien, on vous laisse passer, quoi.
Oui, bon, personne n'est indispensable, ça, il y a quelqu'un qui m'a toujours dit ça, il s'appelle Dédé de Montreuil, c'est pas un philosophe. Et donc, chaque année, je me sentais pas indispensable et j'aimais toujours ce qui se passait. Puis à un moment donné, il y a des gens qui m'ont dit, allez, vas-y, on retourne en studio, mais... Ça aurait pu prendre quelques années supplémentaires. J'écouterais toujours ce qui se fait tous les jours.
Non, mais votre parcours est très étrange, MC Solar, parce que à la fois les rappeurs des quartiers, comme on dit, vous ont toujours respecté, même à Marseille. Alors qu'à Marseille, il y avait Ayam à l'époque et tous les autres, toute la clique derrière. Et en même temps, vous avez été reconnu comme un chanteur-poète par les autres, un peu comme Brassens.
J'avais envie de lutter contre les clichés. Au départ, il y avait énormément de clichés, à savoir qu'on avait des sujets paradoxaux, c'est-à-dire que on se retirait de la société, mais on voulait quand même le véhicule, super sexiste et tout ça. Donc moi, en fait, je gênais personne hein, parce que mon idée, c'était d'apporter un peu d'idées.
Vous avez toujours voulu écrire des chansons dont on pouvait simplement lire les textes, lire sans musique, en gardant un sens. Et c'est ce qui fait votre poésie, MC Solar. Une poésie, je dirais, métrique, qui a un rythme. Il faut du relief pour vous.
Oui. C'est-à-dire que quand on le lit, il y a une musique. C'est un peu comme quelquefois les Américains, quand ils manifestent, ils parlent « exploitation, the population and the nation », c'est le rythme, quoi. Voilà, c'est la chose qui me guide. Quelquefois, bon, bien sûr, il faut... Mais ce qui me guide, c'est qu'il y a une lecture qui soit cadencée.
Ouais. Paul Wameau, vous acquiescez, vous êtes d'accord
oui,
avec ça?
Oui, c'est le rythme qui prime. C'est le rythme, et monsieur MC Solar a ce rythme-là, cette poésie-là, à cette façon de faire passer le rap de cette façon-là.
Maintenant, elle se rend compte qu'elle aurait pu ouvrir les yeux, trouver du temps, de la lumière comme Sainte Thérèse à Lisieux. Donne tout ton temps de ta vie pour toi, pour tes amis, n'oublie pas de le faire tête haute. Libère-toi du dogme une seconde et que ça saute. De ton temps, de ta vie, pour toi, pour tes amis, n'oublie pas de le faire tête haute. Et libère-toi du dogme une seconde et que ça saute.
Dans le titre Ex ça saute, MC Solar, qui figure sur votre nouvel album, vous encouragez le personnage de votre histoire à se libérer du dogme. Et le titre finit avec un son de déflagration, un bruit de bombe. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, se libérer du dogme?
Comment on appelle ça, le métro, le boulot, le dodo, les objectifs, la rentabilité, la maximisation des profits, et en oubliant de faire une balade avec ses enfants ou autre chose. Et en gros, c'est des choses peut-être futiles, mais il faut les mettre dans son emploi du temps et dans son agenda.
Exa.
C'est assez troublant, cette déflagration à la fin du titre. Y a-t-il un message? Parce que le dogme, c'est autre chose aussi. Puis, vous l'avez dit, vous avez écrit cet album au milieu de tout ce qu'on a vécu récemment, toutes les choses graves qu'on a vécues. Vous l'avez dit ça dans la presse.
Oui, je l'ai écrit dans ce moment-là, quand on était donc des Parisiens. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées depuis une dizaine d'années à Paris.
Et ailleurs aussi.
C'était un texte assez long, qui me mettait un peu dans le blues. Alors, on a changé de déflagration et on a mis un feu d'artifice.
À la fin, oui. Voilà. Ouais. Il y a un mélange des deux.
Ouais. Il y a un mélange des deux, bien sûr.
Au Canada, notre libraire Marie-Noëlle Blé a écouté votre album, MC Solar. On va tout de suite la rejoindre du côté de Montréal et elle a lu vos textes. Marie-Noëlle.
Oui, mais comme entendu dans les extraits, cet album est un foisonnement, pour ne pas dire une explosion de métaphores, de références historiques et musicales. MC Solar, vous impressionnez et vous séduisez par votre éclectisme et votre érudition, mais aussi par la précision de vos vers. J'ai particulièrement apprécié l'hommage à Gainsbourg, donc Super Gainsbourg, dont les couplets forment, à mon avis, un sans faute. Et puis j'ai été à la fois touchée et amusée par le texte de Sonotone, un mélange harmonieux de nostalgie et d'autodérision.
Voilà, MC Solar, ça vous fait rire?
Ah oui, non, ça fait plaisir.
Ça vous fait plaisir. Quelles sont vos lectures, MC Solar? Je sais que vous aimez Paul Lafargue, l'auteur du Droit à la paresse, qui était le gendre quand même de Karl Marx, puisqu'il a épousé Laura Marx, la deuxième fille de Karl.
Oui, il m'a un peu élevé, et ça m'a un peu élevé, quoi.
C'est vrai?
Oui, ça donne une vision du monde, et puis cette envie de pouvoir prendre du repos et d'être... pas en marge, mais de regarder différemment. Mais je sais pas, quand ça arrive à un bon moment, et ça arrivait pendant les années scolaires, pré-bac, et qu'on lit ça, on se sent, on se sent libre, différent, on peut faire ce qu'on veut.
Bon, je vous conseille un autre roman, c'est celui d'Olivier Guèze, qui a obtenu le prix Renaudot, qui est avec nous juste à côté de vous, très attentif, très intimidé, presque. Ça va, vous avez le Renaudot maintenant, Olivier, vous pouvez vous la jouer un petit peu.
Mais je n'arrête pas depuis 3 jours.
Je n'arrête pas.
J'exige des choses folles.
Le dernier album, tout nouvel album d'MC Solar, Géopoétique, est paru évidemment chez les disquaires. Il faut continuer à acheter des disques, on le dira encore et encore, mais aussi sur les plateformes légales de téléchargement en ligne, vous le savez. Et puis Paul Wameau avec ce CD, ce EP comme on dit, 6 titres, Sol. Félicitations, merci d'être venu Paul Wameau.
Merci, je voulais juste préciser, faire un éclairage sur un festival, le Festival des villes des musiques du monde, qui a sa 20e édition, dont je suis lauréat avec 7 autres artistes. Donc pour cette 20e édition, ils ont organisé un prix, les prix des musiques d'ici. Et donc allez sur le site des festivals des musiques du monde.
Merci Paul Wameau, merci MC Solar. Vous restez avec nous. À suivre Olivier Guèze, prix Renaudot 2017. Donc avant cela, voici le BIM, Bénin International Musical, un projet artistique de Radio France mené par Hervé Rizen et qui met en lumière la culture musicale du Bénin dans l'objectif de la faire entendre à travers le monde. Merci à vous d'écouter la librairie francophone. Bénin Atmosphère, un projet musical de Radio France, diffusé en avant-première et soutenu par les médias francophones publics sur ici Radio-Canada Première, RTBF la première de la RTS et sur France Inter.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Le grand Olivier Guèze est dans la librairie francophone cette semaine pour La disparition de Joseph Mengele, paru chez Grasset, prix Renaudot 2017. Olivier, rappelez-nous qui est Joseph Mengele.
Joseph Mengele est entré dans l'histoire pour deux raisons principales. Donc, c'était un médecin SS connu pour deux choses. La première, c'est lui qui a procédé à un grand nombre des trains de déportés qui venaient de toute l'Europe et qui auraient envoyé, je dis auraient parce qu'évidemment c'est très difficile de compter, 400 000 personnes directement à la chambre à gaz, donc il y avait pouvoir de vie et de mort, et qui se singularisait par sa mise impeccable et le fait qu'il était toujours sobre, alors que la plupart des SS étaient ivres morts, en fait, alors que lui était sobre, impeccable, bottes lustrées.
Alors, surnommé l'ange de la mort.
Surnommé l'ange de la mort.
Il a expérimenté des choses sur des enfants.
Et puis, surtout, parce que, donc, en tant que médecin à Auschwitz, il a procédé à toutes sortes d'expérimentations, notamment sur des enfants et en particulier sur des petits jumeaux.
Voilà. Bon, c'est vraiment le symbole de la cruauté nazie, hein. Un médecin satanique, même les sympathisants nazis ont du mal à entendre les horreurs qu'il a commises. Et en faisant de Mengele, finalement, un personnage central de roman, vous faites vivre, revivre sa mémoire. N'est-ce pas un honneur indécent, Olivier Guez ?
Je me suis pas posé la question comme ça.
Alors je vous la pose. Alors,
je crois pas. Moi, ce qui m'intéressait, voilà, tout le monde a entendu parler de Mengele, ce qui quelque part est assez étonnant parce que ce n'était pas du tout un hiérarque nazi. C'était un médecin parmi des centaines de médecins ayant sévi dans des camps de concentration. Ce n'était qu'un capitaine SS et il y en a eu des centaines et des milliers des capitaines. Mais effectivement, vous l'avez dit, il est devenu le symbole de l'horreur nazie. Et ce qui était intéressant avec Mengele, c'est que tout le monde sait qu'il n'a jamais été arrêté, donc il n'a jamais été jugé. Et donc moi, je me suis posé la question, qu'est devenu Mengele après Mengele ?
Mais ce n'est pas un honneur indécent pour répondre à ma question.
Non, je crois que la littérature s'est toujours intéressée aux grands criminels. Et moi, j'ai voulu savoir ce que la vie avait réservé à Mengele après avoir été Mengele.
Jusqu'à mettre son nom en couverture, Joseph Mengele, en toutes lettres.
Tout à fait.
D'accord. Vous racontez avec beaucoup de précision, en tout cas de rigueur du journaliste que vous êtes, sa fuite vers l'Argentine après la guerre. Sa femme Irène s'est amourachée d'un marchand de chaussures de Fribourg, alors elle le laisse partir. Sa famille va prospérer après la guerre avec l'entreprise familiale qui produit des machines agricoles. Et en fait, ça arrange tout le monde qu'il soit parti si loin.
Absolument, ça arrange tout le monde. Mais il faut bien comprendre que dans l'immédiate après-guerre et dans les années 50, personne n'a jamais entendu parler de Mengele. Mengele est vraiment un moustique dans l'histoire du nazisme à ce moment-là. Mengele n'est pas recherché en Allemagne. Mengele a figuré sur une liste de criminels de guerre américaine dans l'immédiate après-guerre. Cela dit, le nom de Mengele a été prononcé plusieurs fois lors d'un des procès de Nuremberg qui concernait les médecins nazis. Et c'est à ce moment-là que Mengele comprend que ça va peut-être être compliqué pour lui de réapparaître en Allemagne et qui décide, comme bien d'autres, de quitter l'Allemagne et l'Europe pour fuir en Argentine en 1949.
On va laisser la parole à nos libraires, Olivier Guez. Ils trois ont lu votre roman. La Suisse, la Belgique ou le Canada ? On commence par qui ?
Je sais pas, je mets mon casque ou pas.
Allez-y, allez. Soyez courageux.
La Belgique, j'ai longtemps vécu en Belgique.
La Belgique, Annick Dor, c'est à vous.
Oui, moi j'ai été tout à fait captivée par ce roman, hein, d'une part parce qu'on sent que c'est extrêmement documenté, et puis d'autre part parce que vous parvenez à entrer et à nous faire entrer avec vous dans la tête de cet être froid, calculateur, méfiant. Et donc voilà, il y a aussi une très belle prouesse narrative, presque dérangeante en fait, qui donne beaucoup de force au roman, tant pour rendre compte de l'atrocité des faits commis à Auschwitz, que pour accentuer toute l'atmosphère de trac de la seconde partie. Donc moi, j'ai été tout à fait impressionnée.
Bien, merci Annie. Claire Renaud en Suisse, êtes-vous d'accord ?
Pas tout à fait. Ah. Alors en effet, votre livre, il est très très bien construit et très bien écrit. Mais par contre, je suis vraiment restée complètement hermétique à ce personnage. Et du coup, j'ai eu du mal à comprendre le message de votre roman.
Marie-Noël Blé, qu'en pensez-vous ?
Oui, pour ma part, je dois dire que j'ai eu du mal à embarquer dans le récit ultra détaillé et froid de cette cavale sans fin qui est en effet portée par une narration distante qui parfois déroute. Oui, donc la lecture ne se fait pas sans mal.
Mais...
cela étant, c'est sans doute là la grandeur de ce roman. Il est vraiment sans pitié pour le sujet et pour le lecteur. C'est pour moi un roman trop près de la réalité pour être digeste, mais ça ne pourrait pas vraiment être autrement, puisqu'en effet, l'histoire qu'il relate avec minutie est totalement infâme.
Olivier Guez.
Je voulais ça, quelque part. Ouais. Pour moi, ce livre sur la cavale de Mengele après-guerre ne devait pas être une zone de confort pour le lecteur. L'idée était vraiment de traquer cet homme-là. Il n'était pas plus question de faire la moindre digression, il n'était pas question de me mettre en scène. Je voulais un récit extrêmement rapide, vraiment comme une filature.
Mengele va aller en Argentine, donc, sous le nom de Grégor. Oui. Effectivement, vous ne parlez pas que de la vie de Joseph Mengele.
Non,
c'est le plus fort. Hein. C'est quand il est en Argentine et qu'on voit l'Argentine de Perón qui épouse Evita, qui se retrouve comme ça à haranguer les foules. Et Perón souhaite que l'Argentine soit finalement une alternative au capitalisme américain et au communisme soviétique. Il espère même une troisième guerre mondiale.
Tout à fait.
Il l'attend d'ailleurs.
Beaucoup de gens attendaient, craignaient, ou, et dans le cas de Perón, espéraient une troisième guerre mondiale, notamment la guerre de Corée qui devait dégénérer. Parce qu'en fait, Perón est convaincu que la nouvelle superpuissance, ce sera l'Argentine. Et c'est pour ça qu'il fait venir des centaines et des centaines de techniciens, de scientifiques, d'avionneurs, de militaires pour développer l'Argentine.
On va lire un extrait de votre roman, Olivier Guez. C'est une surprise pour vous, c'est MC Solar qui a accepté cette lecture. Et il va lire cet extrait sur la musique de Wagner.
Wow.
Le justicialisme péroniste ne tient pas ses promesses. Les trottoirs de Buenos Aires sont toujours défoncés. Les trains n'arrivent pas à l'heure. Perón dépense sans compter et brasse du vent en Patagonie. Richter l'a roulé en engloutissant des centaines de millions de pesos sans produire un watt d'électricité nucléaire. L'économie argentine titube et fabrique des babioles. Rudel et Grégor y voient l'influence néfaste du christianisme. Perón n'agit pas avec la brutalité qui convient parce qu'il reste entravé par des inepties judéo-chrétiennes, la compassion et la pitié, toute forme de sentimentalisme dont le nazisme s'était débarrassé. Grégor méprise la coterie catho-fasciste qui entoure El Lider, des hommes faibles et des tigres sans dents, comme Day, ce fanfaron qui prétend avoir pris le thé avec Hitler et le Shah d'Iran. Son mouvement d'unité populaire internationale, du blabla, sa troisième guerre mondiale, un fantasme d'enfant.
Olivier Guez, un petit commentaire, cette lecture d'MC Solar.
Ça me donne envie d'envahir la Pologne.
Non, mais c'est pas sérieux.
C'est sérieux.
Mais non, mais Olivier. Non, mais c'est un sujet qui est super grave, c'est horrible. Ce que vous écrivez est horrible, et vous en faites de l'humour.
Mais parce qu'on me demande toujours comment c'est de vivre avec Mengele. Non, mais c'est magnifique. Bah, déjà, je suis ému, c'est MC Solar qui lit ce texte sur le péronisme. Non, ça, c'est pas les pires passages du livre.
Non, on lui a épargné justement les pires passages du livre à MC Solar.
Non, il faut pas non plus exagérer. Je veux dire, ce livre est aussi comme. C'est comme un roman d'espionnage, c'est aussi comme un polar.
C'est ça qui peut déranger, Olivier. On l'a entendu avec nos libraires. Parce que vous décrivez des scènes absolument atroces où ces piliers SS devenus comme ça, ces nazillons ratés, exercent des tâches d'ouvriers pour se couvrir. Et puis, ils mènent la grande vie.
Pourquoi atroce? En fait.
Je raconte
ce qui s'est passé. Normal de raconter ce qui s'est passé.
Des passages atroces, on est d'accord.
Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas raconter ce que sont devenus les anciens nazis après-guerre. Enfin, il n'y a pas de...
Mais vous décrivez ce qu'ils ont fait. C'est ça qui est terrible.
Bien sûr.
Il y a des pages qui sont très dures à lire, franchement.
Oui, mais ce sont des citations d'un livre que j'ai trouvé dans une bibliothèque à Berlin, d'un médecin hongrois qui a eu le malheur d'être le scalpel de Mengele à Auschwitz. Mais ces pages existent. Enfin, il y a un moment, il faut aussi appeler un chat mettre des mots sur ce qui s'est passé. On peut pas toujours employer des euphémismes.
Ah, mais on vous le reproche pas, Olivier. Juste, on dit ce qu'il y a dans le livre, pour avertir.
Oui, enfin, c'est pas non plus un livre interdit au moins de 32 ans.
Non. Kaoutera Adimi a adoré votre roman, d'ailleurs.
Moi, j'ai beaucoup aimé son livre, et si je devais dire qu'il était dérangeant, ce serait plutôt une bonne chose. Je trouve qu'il est dérangeant, mais au bon sens du terme. Enfin, je suis un peu étonnée par tout ça, parce que je trouve pas, effectivement, que ça serait un livre qu'on interdit au moins de 15 ans.
Mais on n'a pas dit ça.
Non, voilà. Donc, c'est plutôt un livre, effectivement.
Les libraires sont perturbés, mais ils n'ont pas eu un commentaire négatif.
Moi, je voulais écrire ce livre vraiment comme une balle de fusil. C'est raconter le destin d'un criminel contre l'humanité. Et qu'est-ce qui advient à ce criminel contre l'humanité après avoir assassiné des milliers de gens et torturé des enfants? Voilà. Alors, c'est peut-être pas un sujet simple, mais je pense que c'est aussi intéressant de savoir ce qui advient de ce genre de personnes.
Très bien, merci beaucoup Olivier Guez. Bravo, vous avez décroché le prix Renaudot avec ce roman La disparition de Joseph Mengele, paru aux éditions Grasset. Merci à vous, merci MC Solar pour cette lecture.
Merci.
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 Allez, les libraires, tous ensemble. Tous ensemble pour les coups de gueule et les coups de cœur. On commence avec le coup de gueule d'Annick Dor en Belgique sur les auteurs qui sont très trop productifs. Annick ?
Oui, enfin une réflexion, disons, en tout cas sur ces auteurs, en effet, qui publient 7-8 livres par an. Je pense à Michel Onfray ou Frédéric Lenoir. Voilà, où est-ce qu'ils trouvent le temps d'écrire tout ça ? C'est la question que je me pose. Donc je me dis qu'ils ont dû boire une potion magique pour écrire très, 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 très vite. Il faudra qu'on leur demande. Mais c'est vrai que parfois, même les clients n'y croient plus. Voilà, d'autres exemples, c'est par exemple le Dalai Lama ou le Pape. Le Pape, c'est le meilleur exemple, qui à lui seul comptabilise pour 2017 plus de 20 livres cette année.
Ah oui, et, mais le Pape, c'est normal. Voilà,
oui, mais on a du mal à croire que c'est lui qui les écrit.
Ah, mais ce n'est pas lui, c'est Dieu.
c'est
évident. Non, mais le pape, okay, Annick.
Je retire ce que je dis.
Bon, très bien, Annick, on retient votre coup de gueule. Le coup de cœur de Claire Renaud en Suisse.
Oui, Cœur silencieux d'Anne Brécard. Ce qui m'a frappé d'emblée, c'est son écriture fluide qui accompagne ce roman comme l'automne mélancolique. Anna, elle est séparée de son mari, elle retrouve la maison de son enfance, l'odeur de la forêt, les feux de cheminée et surtout le silence. Le silence qui s'est instauré entre elle et son premier amour et le silence du désir. Et c'est un très beau roman, intime et sensuel.
Ça a l'air gay, hein, en tout cas, hein, le cœur silencieux d'Anne Brécard. C'est gay ou pas ?
Non.
Non, c'est aux éditions Zoé, mélancolique. Merci Claire. Le coup de cœur, tiens, un autre coup de cœur avec Mathieu Colombe en France.
Oui, c'est pour une bande dessinée, c'est la saga, alors je m'excuse d'avance parce que je parle très mal islandais, la saga de Grimr, c'est fait bien par Jérémy Moreau chez Delcourt. Et en fait, ça parle de quoi ? Ça parle déjà avant tout et avant toute chose de l'Islande, dans tout ce qu'elle a de plus beau. C'est servi par un trait absolument magnifique, très original, quelque chose qu'il faut absolument avoir vu au moins une fois dans sa vie. C'est fantastique, c'est génial, faut le lire, laissez tomber.
Très bien, la saga de Grimr, de Jérémy Moreau, chez Delcourt. Merci Mathieu, on termine avec le coup de gueule de Marie-Noël Blé à propos du Salon du Livre de Montréal. Ça tombe bien, on y va la semaine prochaine à Montréal. Allez-y Marie-Noël.
Oui, bah c'est plutôt sur le fait de sortir un titre important de la saison quelques jours avant un Salon du Livre. C'est une pratique courante qui nuit tant aux libraires qu'aux lecteurs, parce qu'en faisant ça, les éditeurs s'assurent bien sûr de faire un maximum de ventes par eux-mêmes. Disons que c'est de bonne guerre, mais ça représente souvent moins de ventes en librairie. Mais rappelons surtout que ça a un impact sur le montant à la charge du lecteur, parce qu'en plus de payer le livre, eh bien, il devra payer le prix d'entrée au salon.
Oui, mais il faut aller au Salon du Livre de Montréal, je le rappelle.
Mais bien sûr.
Enregistrement de l'émission en public, jeudi 16 à 16h, Place Bonaventure. Deux événements, un hommage à Régent du Charme avec Robert Charlebois, qui sera avec nous sur le plateau, et une performance signée Zep, qui dessinera des mots de l'actualité donnés par le public avec ses personnages, dont le célèbre Titeuf. Vous n'entendrez ça nulle part ailleurs, et si vous êtes à Montréal, eh bien, réservez vos places.
La librairie francophone. Emmanuel Guérade.
Avant de conclure, coup de pouce à une découverte musicale francophone. Voici le groupe français Holidays avec un extrait de Léo.
Je suis rentré de Londres, Léo. Je suis revenu des ombres, Léo. Les heures étaient trop longues, Léo. Sans ta peau sous mes ongles. Je ne t'ai pas attendu, Léo. Je sortais dans la rue, Léo. Pour goûter d'autres corps, Léo, mais je criais trop fort. Les garçons, c'est pas toi. Ce ne sont que des mains sans tes doigts qui brûlent sur mon corps, Léo. Notre amour n'est pas mort. Les garçons, c'est pas toi. Ce ne sont que des mains sans tes doigts qui brûlent sur mon corps, Léo. Notre amour n'est pas mort. Surpris, Léo, j'ai pris le train de nuit, Léo, je suis venu ici. Oh, dis-moi quelque chose, Léo, voudrais-tu quelques roses, Léo, bien nous serons grandioses, Léo, yes we could be heroes. Les garçons,
c'est pas toi, ce ne sont que des mains sans tes gloires qui brûlent sur mon corps, Léo.
Holidays, Léo, titre que vous pouvez retrouver en intégralité sur internet. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook et Twitter pour communiquer avec vous. Merci MC Solar, à très bientôt. Olivier Guèze, Kaoutera Dimi, Paul Wamoff, allez-y, vous pouvez jouer. À la réalisation, Henri Marc Mutel en France avec Guillaume Roux, Thierry Dupin, la prog musicale. À la rédaction, Jean-Philippe Véret avec Vera Lou de Reed et Alice Jacquelin en France, Martine Béguin-Felé et Annick Chouin en Suisse, René Mikkels avec Valérie Lepute en Belgique, Jacqueline Castonguay et Sylvie Julien au Canada. La semaine prochaine, donc Montréal avec Robert Charlebois, Zep, le Congolais Blaise Ndala qui vit à Ottawa et l'auteur et dramaturge Brigitte Entiens, grande personnalité du Canada. Bonne semaine.